Présence Mouchard.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence. Bonjour. Et bienvenue au Théâtre de la Gamelle.
Bonjour.
Votre émission de théâtre radiophonique en direct, tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios. Je suis Gaspard Blanchard, et cette semaine, nous vous proposons une lecture d'un libre penseur spirituel, un rebelle malgré lui, un explorateur de son âme, le romancier et poète libanais Khalil Gibran, avec son livre « Le prophète ». Donc, Khalil Gibran... Il est né en 1883 à Béchare, au Liban, dans une très ancienne famille chrétienne. Son grand-père maternel était prêtre du rite maronite, les maronites qui sont une communauté religieuse chrétienne d'Orient et du Liban. En 1894, il a émigré avec sa mère à Boston, mais en 1897, il est retourné seul au Liban pour faire ses études à l'école de la sagesse à Beyrouth. En 1901, il visite la Grèce, puis l'Italie, l'Espagne, et il s'installe à Paris pour étudier la peinture. C'est à cette époque qu'il écrit le livre « Les esprits rebelles », un livre qui fut brûlé sur la place publique de Beyrouth par ordre des autorités turques et qui fut condamné comme hérétique par l'évêque maronite. Khalil Gibran, il a été un des pionniers du réveil des lettres arabes à la fin du XIXe siècle. Ça a été aussi un remarquable artisan de la langue anglaise. Il a réécrit lui-même en anglais la plupart des œuvres qu'il a créées en arabe. Les versions anglaises ont toutes été bien accueillies par les milieux littéraires, mais c'est vraiment la publication de The Prophet en 1923 qui lui a assuré une notoriété dans le monde occidental. Le prophète est considéré comme son chef-d'œuvre. Il en a rédigé une première version en arabe à l'âge de 15 ans. Puis deux fois par la suite, il a remanié et amplifié cette version, et c'est après la troisième version en arabe qu'il a choisi de réécrire le texte en anglais, texte qu'il devait encore retravailler quatre fois avant de le confier à l'impression, parce que comme il disait, je voulais être tout à fait sûr que chaque mot fût vraiment le meilleur que j'eusse à offrir. Donc l'histoire du prophète met en scène Al-Mustapha, un sage qui quitte la ville dans laquelle il a vécu pendant 12 ans pour retourner sur sa terre d'origine. Avant son départ, les habitants de la ville insistent pour le questionner sur différentes questions de la vie et entendre sa parole une dernière fois. Aujourd'hui, pour cette lecture, nous sommes en compagnie de Delphine Leroy.
Salut. Bonjour. Delphine.
Salut Delphine, merci beaucoup de m'accompagner sur ce projet, et de Jesse Aydossian.
Salut.
Salut Jesse. Eh ben, bonne écoute à vous tous, chers auditeurs. Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, qui était l'aurore de son propre jour, avait attendu durant 12 années dans la cité d'Orphalèse que revint le vaisseau qui devait le ramener dans l'île de sa naissance. Et la 12e année, au 7e jour d'Iléol, mois de la récolte, il gravit la colline hors des murs de la ville et regarda la mer, et il aperçut son vaisseau venant avec la brume. Alors les portes de son cœur furent arrachées et sa joie vola loin sur la mer, et il ferma les yeux et pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, il fut saisi de tristesse et il pensa en son cœur « Comment pourrais-je aller en paix sans regret ? Non, ce n'est point sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs ont été les jours d'amertume que j'ai passés dans ces murs et longues furent les nuits de la solitude. Et qui peut abandonner sa solitude et son amertume sans regret ? J'ai dispersé trop de fragments de l'esprit dans ces rues et trop nombreux sont les enfants de mon attente qui marchent nus parmi ces collines. Et je ne puis m'en détacher sans oppression et sans douleur. Ce n'est pas un vêtement que j'enlève en ce jour, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Et ce n'est pas une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur rendu doux par la faim et la soif. » m'aimerait davantage. La mer, qui appelle toute chose vers elle, me réclame, et je dois m'embarquer. Car rester, cependant que les heures brûlent dans la nuit, c'est se laisser prendre dans le cristal du gel et être immobilisé dans un moule. Volontiers emporterais-je avec moi tout ce qui est ici, mais comment le pourrais-je ? Une voix ne peut emporter la langue, et les lèvres qui lui ont donné des ailes, elle doit s'élancer seule dans les terres. Et seule et sans nid, l'aigle volera à travers le soleil. Puis quand il parvint au pied de la colline, il se tourna vers la mer à nouveau, et il vit son vaisseau approcher du port, et sur la proue les marins, les hommes de sa propre terre. Et son âme cria vers eux, et il dit « Fils de mon antique mère, vous, cavalier des flots, que de fois avez-vous navigué dans mes rêves ? Et maintenant vous arrivez à mon réveil, qui est mon rêve le plus profond. Me voici prêt à partir, et mon impatience aux voiles déployées attend le vent. Je ne respirerai qu'une dernière bouffée de cet air calme, je ne jetterai qu'un dernier regard d'amour en arrière, et alors je serai au milieu de vous, un navigant parmi les navigants. Et vous, étendue salée, mer toujours en éveil, qui seule accorde paix et liberté au fleuve et à la rivière, ce fleuve n'a plus qu'une courbe à tracer, n'a plus qu'un instant à murmurer dans cette clairière, et alors je viendrai à vous, telle une goutte illimitée vers un océan sans bornes. » Et alors qu'il marchait, il vit au loin hommes et femmes quitter leurs champs et leurs vignes et se hâter vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix qui prononçait son nom et qui s'interpellait de champ en champ pour s'annoncer l'arrivée de son vaisseau. Et il se dit, le jour du départ doit-il être celui de la récolte ? Et sera-t-il dit que ma veille n'était en vérité que mon aurore ? Et que donnerais-je à celui qui a abandonné sa charrue au milieu du sillon ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir ? Faut-il que mon cœur devienne un arbre lourd de fruits que je puisse cueillir et distribuer ? Et faut-il que mes vœux jaillissent comme une source que je puisse remplir leur coupe ? Suis-je une harpe que la main du puissant puisse me toucher ? Ou une flûte que son souffle puisse me traverser ? Je ne suis qu'un chercheur de silence, et quel trésor ai-je trouvé en mes silences que je puisse dispenser avec confiance ? Si aujourd'hui est mon jour de récolte, dans quel champ ai-je jeté la graine et en quelle saison oubliée ? Si c'est en réalité l'heure à laquelle je lève ma lampe, ce n'est pas ma flamme qui y brûlera. Vide et obscur, je lève ma lampe, et le gardien de la nuit l'emplira d'huile et il l'allumera. Ces choses, il les exprima en paroles, mais beaucoup demeurèrent en son cœur inexprimées, car lui-même ne pouvait révéler son plus profond secret. Et lorsqu'il pénétra dans la cité, tout le peuple vint à lui, et il criait vers lui comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité s'avancèrent et dirent « Ne vous éloignez pas de nous déjà. Vous avez été le plein midi de notre crépuscule, et votre jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Vous n'êtes parmi nous ni un étranger ni un hôte, mais notre fils et notre très bien-aimé. Que nos yeux ne soient pas déjà privés de votre visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent « Ne laissez pas les vagues de la mer nous séparer désormais et les années que vous avez passées avec nous devenir un souvenir. Vous avez marché parmi nous comme un esprit et votre ombre a été lumière sur nos visages. Nous vous avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé, mais maintenant il vous appelle à haute voix et voudrait se révéler à vous. Il en a toujours été ainsi de l'amour, il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. » Et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent, mais il ne leur répondit point. Il inclina seulement la tête et ceux qui étaient près de lui lui virent des larmes tomber sur sa poitrine. Et avec le peuple, il se rendit à la grande place devant le temple et alors sortit du sanctuaire une femme dont le nom était Almitra. Et c'était une voyante. Et il la regarda avec une extrême tendresse car c'était elle qui, la première, l'avait suivi et qui avait cru en lui dès son premier jour dans la cité. Et elle le salua disant « Prophète de Dieu, à la recherche de l'infini, longtemps vous avez scruté les horizons pour y découvrir votre vaisseau, et maintenant votre vaisseau est venu et vous devez partir. Profonde est votre attente du pays de vos souvenirs et de la demeure de vos plus grands désirs, et notre amour ne voudrait pas vous attacher ni nos besoins vous retenir. Pourtant, avant que vous ne nous quittiez, nous souhaitons que vous nous parliez et vous donniez de votre vérité. Et nous la donnerons à nos enfants et eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Dans votre solitude, vous avez veillé avec nos jours, et dans votre veille, vous avez écouté les pleurs et les rires de notre sommeil. Maintenant, révélez-nous donc à nous-mêmes, et dites-nous tout ce que vous avez découvert de cela qui est entre la vie et la mort. »
Et il répondit, « Peuple d'Orphalèse, de quoi puis-je parler si ce n'est de ce qui émeut actuellement vos âmes ? Alors Almitra dit « Parlez-nous de l'amour. » Et il leva la tête et regarda le peuple. Et un silence tomba sur eux, et d'une voix forte, il dit « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et escarpées. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui. Bien que l'épée cachée dans son pénage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, malgré que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénétrera-t-il jusque à vos racines et secouera dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre balle. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple. Et alors, il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir, en cette connaissance, un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre peur vous ne recherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour. Pour vous rendre dans le monde sans saison, vous rirez, mais non pas tous vos rires, et pleurerez, mais non pas toutes vos larmes. L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez avoir des désirs, qu'ils soient ceux-ci. Se fondre et être un ruisseau coulant qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur de trop de tendresse. Être blessé par sa propre intelligence de l'amour. Et saigner volontiers et joyeusement. Se réveiller avec l'aurore, avec un cœur ailé et rendre grâce pour une autre journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur l'extase de l'amour. Rentrer en sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors, dormir avec en son cœur une prière pour le bien-aimé et sur les lèvres un chant de louange. Alors Almitra parla de nouveau et dit « Et le mariage, maître ?» Et il répondit, disant « Vous êtes nés ensemble, et ensemble, vous resterez pour toujours. Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu. » Mais qu'il y ait des espaces dans votre communion et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave. Qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas la même coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul. De même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre.
et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants ». Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors un homme riche dit « Parlez-nous du don ». Et il répondit « Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Car que sont vos biens sinon des choses que vous conservez jalousement par crainte d'en avoir besoin demain ? Et demain, qu'apportera demain au chien trop prudent, cachant ses os dans le sable mouvant, alors qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte ? Et qu'est la peur de la misère, sinon la misère elle-même ? Et la crainte de la soif devant votre puits plein, n'est-elle pas déjà la soif inextinguible ? Il en est qui donnent peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour susciter la reconnaissance, et leur désir secret corrompt leurs dons. Il en est qui ont peu et qui le donnent entièrement. Ceux qui croient en la vie et dans la bonté de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il en est qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il en est qui donnent avec douleur, et cette douleur est leur baptême. Il en est qui donnent, et ne ressentent ni douleur, ni joie, et ne sont pas conscients de leur vertu. Ils donnent, comme dans la vallée là-bas, le myrte exhale son parfum dans l'espace. Par les mains de tel être, Dieu parle, et à travers leur regard, il sourit à la terre. Il est bien de donner lorsqu'on est sollicité, mais il est mieux de donner sans être sollicité, par compréhension, et pour les généreux, rechercher ceux qui recevront est une joie plus grande que le don. Et est-il une chose que vous devriez refuser ? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que la saison de donner soit vôtre et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent « Je donnerai, mais seulement à ceux qui le méritent ». Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent afin de vivre, car retenir c'est périr. Sûrement celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de tout recevoir de vous. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre huisselet. Et y a-t-il de mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et la confiance, oui, dans la charité de recevoir ? Et qui êtes-vous pour que les hommes se déchirent la poitrine et se dépouillent de leur fierté de sorte que vous puissiez voir leur dignité mise à nu et leur fierté exposée ? Voyez d'abord à mériter vous-même d'être donneur et instrument du don, car en vérité c'est la vie qui donne à la vie, alors que vous, qui vous imaginez être donneur, n'êtes en réalité que témoin. Et vous qui recevrez, et vous recevez tout, n'assumez aucune charge de gratitude, de crainte d'imposer un joug à vous-même et à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui donne, prenant ses dons comme si c'était des ailes. Car être trop soucieux de votre dette, c'est douter de sa générosité qui, à la terre magnanime, pour mère et Dieu pour père. Alors, un vieil homme tenancier d'une auberge dit « Parlez-nous du manger et du boire ». Et il dit « Puissiez-vous vivre du parfum de la terre et comme une plante vous sustenter de la lumière ». Mais puisque vous devez tuer pour manger et ravir au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif, faites-en donc un acte de dévotion. Et que votre table soit un autel sur lequel les purs et les innocents de la forêt et de la plaine sont sacrifiés pour ce qui est plus pur et plus innocent en l'homme. Lorsque vous tuez une bête, dites-lui en votre cœur, par la même puissance qui t'immole, moi aussi je suis immolé et moi aussi je serai dévoré. Car la loi qui t'a livré entre mes mains me livrera entre des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont que la sève qui nourrit l'arbre du ciel. Et lorsque vous mordez une pomme à pleines dents, dites-lui en votre cœur, tes semences vivront dans mon corps, et les bourgeons de tes lendemains fleuriront dans mon cœur, et ton parfum sera mon haleine, et ensemble nous nous réjouirons en toute saison. Et à l'automne, lorsque vous cueillez le raisin de vos vignes pour le pressoir, dites en votre cœur, moi aussi je suis une vigne, et mon fruit sera cueilli pour le pressoir, et comme du vin nouveau, je serai placé dans des vases éternels. Et en hiver, lorsque vous tirez le vin, qu'il y ait en votre cœur un chant pour chaque coupe, et qu'il y ait dans le chant une pensée pour les jours d'automne, et pour la vigne, et pour le pressoir.
Alors un laboureur dit, parlez-nous du travail. Et il répondit, disant, vous travaillez pour pouvoir aller au rythme de la terre et de l'âme de la terre. Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance majestueusement et en fière soumission vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau muet et silencieux, alors que tout chante à l'unisson? Toujours, on vous a dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre, qui vous fut assigné lorsque ce rêve naquit. Et en vous gardant unis au travail, en vérité, vous aimez la vie. Et aimer la vie à travers le travail, c'est être initié au plus intime secret de la vie. Mais si dans votre douleur, vous appelez la naissance une affliction et le poids de la chair une malédiction inscrite sur votre front, alors je réponds que seule la sueur de votre front lavera ce qui est inscrit. On vous a dit aussi que la vie est obscurité, et dans votre fatigue, vous répétez ce que disent les lasses. Et je vous dis que la vie est réellement obscurité, sauf là où il y a élan. Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf là où il y a travail. Et tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, et l'un à l'autre, et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour ? C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe. C'est bâtir une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait demeurer en cette maison. C'est semer des grains avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est mettre en toute chose que vous façonnez un souffle de votre propre esprit et savoir que tous les morts bienheureux se tiennent auprès de vous et veillent. Souvent je vous ai entendu dire, comme si vous parliez dans votre sommeil, celui qui travaille le marbre et qui trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui laboure le sol. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel et l'étend sur la toile à la ressemblance de l'homme est plus que celui qui fait des sandales pour nos pieds. Moi je dis, non pas en sommeil, mais dans le plein éveil du milieu du jour, que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes géants qu'aux plus infimes de tous les brins d'herbe. Et celui-là seul est grand qui transforme la voix du vent en un chant rendu plus doux par son amour. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, il vaut mieux abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple et recevoir l'aumône de ceux qui œuvrent dans la joie. Car si vous faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, votre regret distille un poison dans le vin. Et si même vous chantez comme les anges et n'aimez pas le chant, vous fermez les oreilles de l'homme aux voix du jour et aux voix de la nuit. Alors une femme dit, parlez-nous de la joie et de la tristesse. Et il répondit, « Votre joie et votre tristesse sans masque. » Et le même puits d'où fuse votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment serait-il autrement ? Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. La coupe qui tient votre vin n'est-elle pas la même coupe qui fut cuite dans le four du potier ? Et le luth qui caresse votre âme n'est-il pas le même bois qui fut évidé au couteau ? Lorsque vous êtes joyeux, regardez profondément en votre cœur et vous trouverez que ce qui vous apporte de la joie n'est autre que ce qui vous a donné de la tristesse. Lorsque vous êtes triste, regardez à nouveau en votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui fut votre délice. Il en est parmi vous qui disent « La joie est plus grande que la tristesse » et d'autres disent « Non, non, la tristesse est plus grande ». Mais moi je vous dis qu'elles sont inséparables. Ensemble, elles viennent, et quand l'une vient s'asseoir seule avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre dort sur votre lit. En vérité, vous êtes suspendu comme une balance entre votre tristesse et votre joie. Ce n'est que lorsque vos plateaux sont vides que vous êtes immobile et en équilibre. Lorsque le gardien du trésor vous soulèvera pour peser son or et son argent, il faudra que votre joie ou votre tristesse s'élève ou s'abaisse.
Et un marchand dit, « Parlez-nous d'acheter et de vendre. » Et il répondit et dit, « Pour vous, la terre livre son fruit, et vous ne manquerez de rien si vous savez comment remplir vos mains. C'est en échangeant les dons de la terre que vous trouverez l'abondance et serez comblés. Cependant, à moins que l'échange ne se fasse dans l'amour et la justice bienveillante, il conduira les uns à l'avidité et les autres à la faim. » Lorsqu'au marché, travailleurs de la mer, des champs et des vignes, vous rencontrez les tisserands et les potiers et les cueilleurs d'épices, invoquez alors l'esprit maître de la terre, qu'il vienne parmi vous et sanctifie les balances et le calcul qui opposent valeur à valeur. Et ne souffrez point que ceux qui ont les mains stériles prennent part à vos transactions, eux qui vendent leurs paroles en échange de votre travail. À de tels hommes, vous direz, « Venez avec nous au champ, ou allez avec nos frères vers la mer, et jetez vos filets. Car autant qu'à nous, la terre et la mer vous seront généreuses. » Et si viennent les chanteurs et les danseurs et les joueurs de flûte, achetez de leur offre également, car eux aussi sont cueilleurs de fruits et dansants, et ce qu'ils apportent, quoique façonnés de rêves, est vêtements et nourriture pour votre âme. Et avant que vous ne quittiez le marché, voyez si personne n'est parti les mains vides, car l'esprit maître de la terre ne reposera pas en paix sur le vent tant que les besoins du moindre d'entre vous n'auront pas été satisfaits. Alors, un des juges de la cité s'avança et dit « Parlez-nous de crime et de châtiment !» Et il répondit, disant « C'est lorsque votre esprit erre sur le vent que par votre seule imprudence vous causez préjudice à l'autre, et donc à vous-même. Et pour ce préjudice, vous devrez frapper à la porte des élus et attendre dans le dédain. Comme l'océan est votre moi divin, il demeure à jamais immaculé. Et comme l'éther, il ne soulève que les allées. Tout comme le soleil est votre moi divin, il ne connaît pas les chemins de la taupe, ni ne cherche les trous du serpent. Mais votre moi divin n'est pas seul dans votre être. Beaucoup en vous est encore homme, et beaucoup en vous n'est pas encore homme. Mais un pygmée informe qui marche endormi dans le brouillard à la recherche de son propre éveil. Et de l'homme en vous, je voudrais parler maintenant, car c'est lui, et non votre moi divin, ni le pygmée dans le brouillard, qui connaît le crime et le châtiment du crime. Souvent, je vous ai entendu parler de celui qui commet une mauvaise action, comme s'il n'était pas l'un des vôtres. Mais un étranger parmi vous est un intrus dans votre monde. Mais je vous le dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-dessus de ce qu'il y a de plus élevé en chacun de vous, ainsi le mauvais et le faible ne peuvent tomber en dessous de ce qu'il y a également de plus bas en vous, et de même qu'une seule feuille ne jaunit qu'avec le silencieux assentiment de l'arbre entier, ainsi le malfaiteur ne peut agir mal sans le secret acquiescement de vous tous. Comme une procession, vous avancez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent. Et lorsque l'un d'entre vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derrière lui, les prévenant de la pierre d'achoppement. Oui, et il tombe pour ceux qui sont devant lui, qui, bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr, n'ont pourtant pas écarté la pierre. Et ceci encore, dû le mot peser lourdement sur vos cœurs. L'assassiné n'est pas irresponsable de son propre assassinat. Et le volé n'est pas irréprochable d'avoir été volé. Et le juste n'est pas innocent des actions du méchant. Et celui qui a les mains blanches n'est pas indemne des actes du félon. Oui, le coupable est souvent la victime de l'offensé. Et plus souvent encore, le condamné supporte le fardeau pour l'innocent et pour l'irréprochable. Vous ne pouvez séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant, car ils se tiennent tous deux devant la face du soleil, tout comme les fils noirs et blancs sont tissés ensemble. Et quand le fil noir vient à se rompre, le tisserand vérifie tout le tissu, il examine aussi le métier. Si l'un d'entre vous met en jugement l'épouse infidèle, qu'il pèse aussi dans la balance le cœur de son mari et mesure son âme avec soin, et que celui qui veut cingler l'offenseur regarde l'âme de l'offensé. Et si l'un d'entre vous punit au nom de la droiture et plante la hache dans l'arbre du mal, qu'il en considère aussi les racines. Et en vérité, il trouvera les racines du bon et du mauvais, du porteur de fruits et du stérile, entrelacées dans le cœur silencieux de la terre. Et vous, juge qui voulez être juste, quel jugement prononcerez-vous contre celui qui bien connaît en la chair et voleur en l'esprit ? Quelle sanction déciderez-vous contre celui qui tue dans la chair alors qu'il est lui-même tué dans l'esprit ? Et comment poursuivrez-vous celui qui dans ses actes est de mauvaise foi et oppresseur, mais lui aussi lésé et outragé ? Et comment punirez-vous ceux dont le remords est déjà plus grand que leur méfait ? Le remords n'est-il pas justice, rendue par cette même loi que vous voulez servir ? Cependant, vous ne pouvez mettre le remords sur l'innocent ni l'enlever du cœur du coupable. Spontanément, il criera dans la nuit pour que les hommes veillent et se considèrent. Et vous qui voulez comprendre la justice, comment le pourrez-vous, à moins de regarder toute chose dans l'éclat de la lumière ? Alors seulement, vous saurez que le juste et le déchu ne sont pas qu'un seul homme debout dans le crépuscule entre la nuit de son moi pygmée et le jour de son moi divin, et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations.
Et un orateur dit : Parlez-nous de la liberté. Et il répondit : Aux portes de la cité et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté, comme des esclaves qui s'humilient devant un tyran et qui le glorifient alors qu'il les détruit. Oui, dans le bocage du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un joug et des menottes. Et mon cœur saigna en moi, car vous ne saurez être libres que lorsque même le désir de parvenir à la liberté deviendra pour vous un harnais, et lorsque vous cesserez de parler de la liberté comme d'un but et d'un achèvement. Vous serez libres en vérité, non pas lorsque vos jours seront sans un souci et vos nuits sans un désir et sans une peine, mais plutôt lorsque ces choses enserreront votre vie et que vous vous éleverez au-dessus d'elles, nus et sans entrave. Et comment vous éleverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits si vous ne brisez les chaînes dont à l'aube de votre entendement vous avez chargé votre heure du midi ? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus forte de ces chaînes, bien que ces anneaux brillent au soleil et vous éblouissent. Et qu'est-ce, sinon des fragments de vous-même que vous voulez écarter pour devenir libre ? Si c'est une injuste loi que vous voulez abolir, cette loi fut écrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pourrez pas l'effacer en brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, même si vous déversiez sur eux la mer entière. Et si c'est un despote que vous voulez détrôner, voyez d'abord si son trône en vous est bien détruit. Car comment un tyran peut-il dominer les libres et les fiers s'il n'existe pas une tyrannie dans leur propre liberté et une honte dans leur propre fierté? Et si c'est une inquiétude que vous voulez chasser, cette inquiétude a été choisie par vous bien plus qu'elle ne vous a été imposée. Et si c'est une peur que vous voulez dissiper, le siège de cette peur est en votre cœur et non dans la main que vous redoutez. En vérité, toutes choses se meuvent en votre être intime dans une constante semi-étreinte, celle que vous désirez et celle que vous redoutez, celle qui vous répugne et celle que vous chérissez, celle que vous poursuivez et celle que vous voulez fuir. Ces choses se meuvent en vous comme des lumières et des ombres par couples étroitement unis. Et quand l'ombre s'affaiblit et disparaît, la lumière qui s'attarde devient l'ombre d'une autre lumière. Et ainsi votre liberté, lorsqu'elle perd ses entraves, devient elle-même l'entrave d'une plus grande liberté.
Et la prêtresse parla à nouveau et dit « Parlez-nous de la raison et de la passion. » Et il répondit, disant « Votre âme est souvent un champ de bataille, où votre raison et votre jugement combattent votre passion et votre appétit. Puissais-je être le pacificateur en votre âme et transformer la discorde et la rivalité de vos éléments en unité et mélodie? Mais comment le pourrais-je? À moins que vous-même ne soyez aussi les pacificateurs, bien plus, les amis de tous vos éléments. Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. Si vos voiles ou votre gouvernail se brisent, vous ne pouvez qu'être ballotté et aller à la dérive, ou rester ancré au milieu de la mer. Car la raison, régnant seule, restreint tout élan. Et la passion abandonnée à elle-même est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre destruction. Ainsi que votre âme élève votre raison à la hauteur de la passion pour qu'elle puisse chanter. Et que la raison dirige votre passion pour que votre passion puisse vivre dans une quotidienne résurrection et tel le phénix renaître de ses propres cendres. Je voudrais que vous considériez votre jugement et votre appétit comme vous le feriez de deux hôtes aimés dans votre maison. Certes, vous ne voudriez pas honorer un hôte davantage que l'autre, car celui qui porte plus d'attention à l'un perd l'amour et la confiance de tous les deux. Lorsque parmi les collines, vous êtes assis à l'ombre fraîche des peupliers blancs, partageant la paix et la sérénité des champs et des prairies qui s'étendent au loin, alors que votre cœur dit en silence « Dieu repose en sa raison ». Et lorsque éclate l'orage et qu'un vent fort secoue la forêt et que le tonnerre et l'éclair proclament la majesté du ciel, alors que votre cœur dise avec révérence « Dieu agit en sa passion ». Et puisque vous êtes un souffle dans la sphère de Dieu et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devez reposer dans la raison et vous mouvoir dans la passion. Et une femme parla, disant « Parlez-nous de la douleur ». Et il dit « Par la douleur se brise la coquille qui enveloppe votre entendement. De même que le noyau du fruit doit se rompre, pour que son cœur puisse s'offrir au soleil, ainsi vous devez connaître la douleur. Et vous pourriez vous garder votre cœur dans l'émerveillement du miracle quotidien de votre vie, votre douleur n'apparaîtrait pas moins merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons de votre cœur, de même que vous avez toujours accepté les saisons qui passent sur vos champs. Et vous veilleriez avec sérénité à travers les hivers de votre tristesse. Beaucoup de votre douleur est par vous-même choisie. C'est la potion amère par laquelle le médecin vous guérit votre moi malade. Faites donc confiance au médecin et buvez sa potion en silence et tranquillité. Car sa main, quoique lourde et dure, est guidée par la main bienveillante de l'invisible. Et la coupe qu'il offre, bien qu'elle brûle vos lèvres, a été façonnée de l'argile que le potier a mouillée de ses propres larmes sacrées.
Et un adolescent dit « Parlez-nous de l'amitié ». Elle répondit disant « Votre ami est la réponse à vos besoins. Il est votre champ. Et vous ensemencez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Et il est votre table et votre foyer. Car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour la paix. Lorsque votre ami révèle sa pensée, ne craignez pas le non de votre propre esprit, ni ne refusez le oui. Et lorsqu'il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur. Car en amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent sans parole et se partagent dans une joie muette. Lorsque vous vous séparez de votre ami, vous ne vous affligez pas. Car ce que vous aimez le plus en lui peut être clair en son absence. De même que pour l'ascensionniste, la montagne est plus nette vue de la plaine. Et qu'il n'y ait pas de but dans l'amitié, sinon l'approfondissement de l'esprit. Car l'amour qui cherche autre chose que la révélation de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté, et seul l'inutile est pris. Et que le meilleur de vous-même soit votre ami, soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il en connaisse aussi le flux. Car à quoi bon votre ami si vous le cherchez afin de tuer le temps? Cherchez-le toujours pour les heures vivantes, car il lui appartient de combler votre besoin, mais non votre vide. Et dans la douceur de votre amitié, qu'il y ait le rire et le partage des plaisirs. Car dans la rosée des petites choses, le cœur trouve son matin et sa fraîcheur. Et un astronome dit « Maître, qu'en est-il du temps ?» Et il répondit « Vous voudriez mesurer le temps, l'infini et l'incommensurable. » Vous voudriez adapter votre conduite et même diriger le cours de votre esprit selon des heures et des saisons. Du temps, vous feriez une rivière au bord de laquelle vous vous assoiriez pour observer son cours. Cependant, l'intemporel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie, et c'est qu'aujourd'hui n'est que le souvenir d'hier et demain le rêve d'aujourd'hui. Et que ce qui chante et contemple en vous est encore fixé dans les limites de ce premier instant qui sema les étoiles dans l'espace. Qui parmi vous ne sent que son pouvoir d'aimer est illimité? Et cependant, qui ne sent ce même amour, quoique illimité, enfermé au centre de son être, et ne procédant pas d'une pensée d'amour à une pensée d'amour, ni d'un geste d'amour à un autre geste d'amour? Et le temps n'est-il pas comme « et l'amour » indivisible et immobile. Mais si dans votre pensée, vous devez mesurer le temps en saison, que chaque saison enveloppe toutes les autres, et qu'aujourd'hui embrasse le passé avec souvenir et le futur avec aspiration.
Et l'un des anciens de la cité dit « Parlez-nous du bien et du mal. » Et il répondit « Du bien qui est en vous, je puis parler, mais non du mal. Car le mal... qu'est-ce sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif? En vérité, lorsque le bien est affamé, il cherche sa nourriture même dans des caves obscures, et lorsqu'il est assoiffé, il s'abreuve même d'eau morte. Vous êtes bon lorsque vous êtes un avec vous-même. Pourtant, lorsque vous n'êtes pas un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais. Car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, elle n'est qu'une maison divisée. Et un vaisseau sans gouvernail peut errer sans but parmi les récifs, sans pour autant sombrer. Vous êtes bon lorsque vous essayez de donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous recherchez un gain pour vous-même. Car lorsque vous recherchez un gain, vous n'êtes qu'une racine qui s'attache à la terre et se nourrit à son sein. Certes, le fruit ne peut dire à la racine « Sois comme moi, mûre et pleine et donnant toujours de ton abondance. » Car pour le fruit, donner est un besoin, comme recevoir est un besoin pour la racine. Vous êtes bon lorsque vous êtes pleinement éveillé dans vos discours. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous dormez, tandis que votre langue titube, et même un discours trébuchant peut fortifier une langue faible. Vous êtes bon lorsque vous marchez fermement vers votre but et d'un pas intrépide. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous y allez en boitant. Même ceux qui boitent ne vont pas en arrière. Mais vous qui êtes fort et rapide, gardez-vous de boiter devant les estropiés, croyant être bienveillant. Vous êtes bon dans d'innombrables chemins, et vous n'êtes pas nécessairement mauvais lorsque vous n'êtes pas bon. Vous ne faites que flâner et paresser. Quelle pitié que les cerfs ne puissent apprendre la rapidité aux tortues. Dans votre aspiration vers votre moi géant, gît votre bonté, et cette aspiration existe en vous tous. Mais chez quelques-uns, c'est un torrent qui dévale avec fougue vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. Et chez d'autres, c'est un faible ruisseau nonchalant, qui se perd en méandres et se courbe et s'attarde avant d'atteindre le rivage. Mais que celui dont l'aspiration est brûlante ne dise pas à celui dont le désir est tiède « Pourquoi es-tu lent et paresseux ?» Car les bons ne demandent pas à celui qui est nu « Où est ton vêtement ?» ni au sang-foyer « Qu'est devenu ta maison ?» Merci à tous et à toutes. C'était donc le prophète de Khalil Gibran, dont nous avons lu ici plusieurs extraits. Alors, pendant la lecture, j'ai reçu un appel téléphonique de Miguel Peltera. Il a un message à faire passer. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour le public et les personnes qui écoutent Radio Canut. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Nous allons le découvrir avec vous. Bonne écoute.
Bonjour, ici Miguel. Vous vous sentez seul dans cette période d'isolement, mais vous ne trouverez pas une seconde pour vous en rendre compte. Vous sentez venir les confinements à répétition, déjà. Et vous vous demandez comment ça se fait que, alors que tous les théâtres sont fermés, les spectacles annulés, comment ça se fait que vous bossez autant. Tout azimut, numérique, réunion, qui a des idées, qui se charge de ça, toi, fendu. Et tu te demandes comment ça se fait? On est en confinement, comment ça se fait qu'on fasse plus? On devrait pas être dans des sortes de vacances. Eh ben non, et non. On court, on fait de la culture, malgré tout et contre tout, comme des moines dans un roman de Umberto Eco, ou des fourmis dans un roman de... Mais qui écrit sur les fourmis aussi? Hein? Personne? C'est chiant, les fourmis. Mais là, au bout du tunnel, une lueur. Elle est là, la raison, la fameuse, pour laquelle on est là. Elle s'éloigne quand on avance, mais elle est là. Est-ce qu'on peut se faire nos propres raisons en attendant? Est-ce qu'on peut jeter des messages dans des bouteilles? Dans un tunnel? J'imagine que oui. Ça fera poc et pas plouf, mais ça fera quelque chose. Un message dans une bouteille. Là pour le suivant. Les suivants. Les prochains moines. Tourner la tête, dire un mot au passager ou au conducteur à côté. Ou au ciel, à l'enfer du ciel. C'est ce que je vous propose. Une voix dans l'obscurité du tunnel, entrecoupé des poc-poc des messages qui tombent au sol, comme des fleurs, parce que ça marche toujours d'invoquer les fleurs. C'est ce qu'on va faire ici. On va s'échanger des messages. On va laisser entrer la lumière. Le théâtre parle au théâtre. On va s'échanger des bouteilles. Ce sera tellement fun. C'est ça que je vous propose. J'ai créé une adresse mail. Je vous la donne ici. Et vous pouvez envoyer des messages, des déclarations, des idées, et je les lis. Chaque semaine. Comme un Prométhée, mais avec moins de charisme, parce qu'il paraît que le mec était quand même un titan. Ça pète la classe, faut bien le dire. Une adresse mail, donc, et un mec qui lit, moi, les messages que vous, vous adressez à vous. Et le mail, c'est letheatreparle@gmail.com. Le théâtre parle, écrit comme un théâtre qui parle. Sans accent, sans espace, sans majuscule, sans rien. Le néant. Le théâtre parle. En petit, tout attaché, sans accent. @gmail.com. Est-ce qu'il y aura une sélection? Non, pas a priori. Je pourrais lier le message, enjoliver, faire des parures. Mais le principe est de lire, de passer des messages par des ondes au-dessus de nos têtes. Du théâtre au théâtre. Voilà ce que je vous propose. Venez, on s'amuse, on échoue, on crée, on joue. On peut pas s'en empêcher de toute façon. Le théâtre parle à gmail.com. Voilà. Bonjour. Et à très vite.
Merci beaucoup, Miguel, pour cette intervention. Donc, comme vous avez bien entendu, pendant toute la durée de ce confinement numéro 2, vous pouvez envoyer vos messages à letheatreparle@gmail.com et ils seront lus ici, à Radio Canu 102.2, pour le théâtre de la Gamelle. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Delphine.
Merci.
Merci aussi à Jessie.
Merci.
Et pour vos voix, pour vos mots. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera une lecture de Une légère blessure de Laurent Mauvigné, proposée par Maud Roussel. D'ici là, sortez couverts, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. C'était Gaspard Blanchard pour le Théâtre de la Gamelle. À la semaine prochaine.
Il était sur son char.
Amateur,
propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.